Le message de ce soir, j'ai eu de lit, alors je me permets une petite anecdote, c'est d'être empathique et jovial. La première fois que j'ai eu Thibaut Jaillère au téléphone, j'allais pas bien, et je lui avais envoyé une espèce d'appel à l'aide par message Facebook, et il m'avait rappelé sur mon portable, et en fait j'ai senti dans sa voix combien il avait de la compassion pour moi, et combien, en même temps, je sentais qu'il souriait au téléphone, enfin... Le sourire, ça peut s'entendre parce que quand on parle comme ça, ça s'entend. Et je sentais qu'il avait cette compassion et cette joie du Seigneur qu'il voulait me partager. Et sur ces quelques mots, je voudrais simplement lui laisser la parole et peut-être s'il le désire se présenter lui-même. Thibaut, c'est à toi pour le message.
1, 2, 1, 2, bonsoir. Waouh. Vous allez bien? Vous avez l'air tout timide, vous n'osez pas parler? Bonsoir. Wow. Oh punaise, mais un pupitre comme ça, si t'as un peu plus grand. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Parce que je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, alors vous n'allez pas me croire quand je vais vous dire ça, mais des fois quand j'arrive dans un endroit où je ne connais personne, je suis un peu genre mal à l'aise. Et des fois je suis content quand quelqu'un dit « Allez-vous saluer les uns les autres ?» parce que ça me décoince un petit peu. Donc, j'aimerais vous encourager à tous vous lever et à vous saluer les uns les autres, à faire un bon schmutz alsacien. Yes, trop bien. Il y en a vraiment qui ne s'arrêtent plus là. Le schmutz alsacien, il est... trop bien. Alors, moi je viens du sud, de l'Alsace, et... C'est un peu moins sexy. J'essaye d'être pasteur depuis quelques années maintenant à Mulhouse. Je fais partie de l'église de la Porte Ouverte Chrétienne. Et c'est vraiment avec beaucoup de joie que je reviens dans la région après, je ne sais pas, dernière fois que je suis venu, je ne sais pas, ça fait combien de temps? 10 ans! 10 ans que je ne suis pas venu ici. Bon, c'est loin, hein? Ouh, j'ai cru que la route, elle s'arrêtait jamais. Mais je suis là. Et vraiment, je suis heureux d'être là. Vous imaginez pas, pour différentes raisons, j'ai dû annuler tous mes derniers déplacements en France. J'ai dû tout annuler, mais il y en a un que j'ai gardé. C'est le vôtre. Vraiment, parce que je sentais qu'il fallait que je vienne, vraiment. Donc, gloire à Dieu. J'ai la chance de rentrer de Cuba et de voyager partout dans le monde et de voir Dieu agir partout dans le monde. Et j'ai vraiment beaucoup de joie à venir ici parce que le Dieu est le même partout. Partout où je vais, je vois réellement le même Dieu, mais bizarrement, je vois les mêmes gens avec les mêmes problèmes. C'est fou, hein? Mais avec les mêmes problèmes, les mêmes défis partout dans le monde. Quand tu vas à Cuba, tu t'attends pas à ce qu'il y ait les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Mais le même Dieu qui nous aime. Vraiment, c'est extraordinaire. Alors, je bouscule un peu le programme. Je ne voyage jamais seul. Parce qu'il me semble que dans la Bible, Paul voyageait jamais seul. Si vous voyez un jour un pasteur voyager seul, dites-lui, dans la Bible, il voyageait toujours accompagné. Hello ? Tous les pasteurs de la salle sont en train de se dire « Oh, qu'est-ce qu'il nous fait ?» Mais j'ai la chance d'avoir quelques jeunes qui sont venus avec moi. Ils vont se lever, on peut les accueillir vraiment. Il faut du courage pour voyager avec moi, vraiment, je vous le promets. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Et j'aimerais demander à l'un d'eux de venir donner un témoignage. Alors, je n'ai pas de micro, je ne sais pas comment il va faire. Il va parler fort, ou je ne sais pas si vous avez un micro de secours ou un truc. Oh, c'est génial. Ce gars-là, vous allez l'entendre parler. C'est littéralement un miracle s'il est là. Vraiment, je vais le laisser parler. Il y a quelques années... Oh punaise, comme il m'a rendu dingue. Allez, parle.
Je précise juste une petite annonce. Les personnes qui ont des portables, veuillez, pour les raisons de micro et de Larsen, si vous pouvez les éteindre ou les passer en mode avion, ce serait super cool. Merci beaucoup.
Bonsoir. Alors moi, c'est Jemuel, et bon, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais voilà, j'ai jamais voulu vraiment savoir. Et j'ai rencontré Dieu à l'âge de 15 ans, et à partir de là, ça a été la dégringolade. Je suis tombé loin, et j'ai commencé avec l'alcool. J'aimerais vous parler de l'alcool ce soir parce que l'alcool, ça nous touche tous. Et bien sûr, c'est légalisé partout aussi en France. Et à la base, moi, je commençais à boire. C'était pour m'amuser, c'était pour passer un bon moment avec les amis, c'était pour rigoler, pour être à l'aise. Mais petit à petit, eh ben, je commençais à boire, même quand il n'y avait aucune raison de boire, en fait. Et je commençais à devenir violent, je commençais à avoir beaucoup de problèmes à cause de l'alcool. J'ai eu des accidents de voiture, j'ai failli mourir plusieurs fois, j'ai fait couler le sang à cause de l'alcool, mais je pensais que j'avais besoin de ça pour être libéré. Me sentir bien. Et c'était un mensonge, et il y a de ça 3 ans, le Seigneur m'a retrouvé alors que j'étais perdu. Il m'a ramené à lui et il m'a fait comprendre que ces choses-là, c'était inutile, que ces choses-là, j'en avais pas besoin pour être à l'aise, que j'en avais pas besoin pour m'amuser, pour être sociable et aimer les gens. En fait, c'était un mensonge. Et un soir, un jour, comme ça, je sais pas ce qui s'est passé, mais tout ce que j'avais comme alcool à la maison, j'ai tout vidé dans le lavabo. Et depuis ce soir-là, plus une goutte d'alcool. Je bois de temps en temps une bière comme ça, mais même l'effet de l'alcool, ça me saoule. Soyez bénis. Je vous aime.
Excellent. L'effet de l'alcool, ça me saoule. Ça, c'est vraiment un jeu de mots. Vraiment tellement fier de lui. Vous imaginez pas. Si vous racontez toute sa vie, oh, punaise, vous deviendrez dingue. Dieu, il a bouleversé ce gars, vraiment, de la tête aux pieds, libéré de la drogue, libéré vraiment de ouf. C'est un miracle. Et le Dieu des miracles, écoutez-moi, le Dieu des miracles est là ce soir. Il est là. Et ce qu'il a fait dans sa vie, il veut le faire dans chacune de nos vies. Et j'aimerais qu'on puisse juste prier, juste remettre ce moment entre les mains de Dieu. Peut-être que tu es là, tu ne connais pas Dieu, tu ne crois pas, peut-être ça te saoule déjà. Tout va bien, d'accord ? On ne va pas te saouler, enfin on va essayer de ne pas te saouler. Mais on aimerait vraiment que tu te sentes à l'aise. On est des gens normaux, un peu bizarres. Moi j'ai des lunettes sans verre, ça ne sert à rien du tout. Il n'y a aucune raison, c'est juste plus facile de se gratter. C'est vraiment, littéralement, tu peux te sentir à l'aise. Parce que moi je suis à l'aise pour venir avec mes lunettes sans verre, je veux dire vraiment. Il faut que chacun se sente à l'aise. Puis vraiment, le Dieu des miracles, c'est lui qui peut faire des miracles. Nous, on est juste des gens bizarres, d'accord ? Et on a besoin de lui. Oh Dieu, merci. Ah, je sens tellement ta présence, je sens que t'es là, et je sens beaucoup d'amour pour ces gens-là. Beaucoup d'amour pour moi. Merci de nous aimer. Merci de croire en nous, là où on a du mal à croire en toi. Je prie vraiment de préparer nos cœurs. Je prie de nous aider à entendre ce que tu veux nous dire. Je prie, Seigneur, que tu puisses opérer des miracles dans nos cœurs, dans nos vies. Bouleverse nos vies comme tu l'as fait pour Jemuel. S'il te plaît, manifeste-toi. Nous avons tellement besoin de toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 J'ai 35 ans. J'ai 35 ans. Et j'ai eu la chance et le privilège d'être célibataire pendant 34 ans. Un privilège extraordinaire d'être célibataire pendant 34 ans. C'était parfois difficile. C'est parfois difficile parce que je ne comprenais pas. J'avais toujours l'impression, finalement, que je ne pourrais jamais trouver une fille pour moi. Parce que j'étais trop gros, trop poilu. Et finalement... J'avais des fois l'impression qu'il n'y avait pas d'espoir pour moi dans ce domaine-là. Mais je priais pour ça, et je ne sais pas pourquoi ou comment, mais une fois que j'avais prié, donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Une fois que je l'ai donné à Dieu, j'ai pu vivre une vie extraordinaire. Comme je vous l'ai dit, j'ai pu voyager partout dans le monde, pu faire des choses extraordinaires, vraiment. Et par la grâce de Dieu, j'ai vécu des années de célibat extraordinaires. J'aimerais vraiment vous encourager. Je sais qu'il y a plein de célibataires. Je sais même qu'il y en a, c'est parce que vous êtes célibataire que vous êtes venu ce soir. Oui, oui. Soyez heureux dans votre célibat. Paul va dire être célibataire, c'est meilleur que d'être marié. Jésus lui-même va dire c'est meilleur d'être célibataire que d'être marié. Bizarrement, on ne vous prêche jamais ça dans les églises. J'en profite. D'accord ? J'en profite. C'est vraiment meilleur. Après, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et j'aimerais vous montrer ma princesse photo numéro 0. Elle s'appelle Anna Katerina. Anne-Catherine, c'est mon rayon de soleil. Vraiment, elle n'est pas là parce qu'elle travaille demain matin. Mais vraiment, elle est là dans mon cœur. Si on peut la voir, elle suspense, tout le monde se dit « Wow !» Ça vaut la peine d'attendre. Vraiment. Ça vaut tellement la peine. Vous imaginez pas à quel point ça vaut la peine d'attendre. Je vous encourage. Yes ? C'était une petite parenthèse, j'avais envie de vous parler de célibat. J'aimerais lire un texte de la Bible. Et c'est marrant parce que ces derniers temps, j'entends beaucoup de prédicateurs dire qu'il ne faut pas lire la Bible. Ça ennuie les gens. Donc il faut juste lire un ou deux versets, puis il faut parler surtout. Excusez-moi, vous ne m'arrêterez pas de lire la Bible. D'accord ? On va lire 21 versets. Mais tu sais quoi ? C'est le moment le plus important. Parce qu'il vaut mieux l'écouter lui que moi. Hello ? C'est lui qui est capable de changer votre vie. Moi ? Je ne sais pas de quoi je suis capable, à part de faire le pitre. Je peux m'avancer encore, hein ? Ça va, hein ? Au point où vous en êtes, certains regrettent de m'avoir invité. Est-ce que je peux demander à quelqu'un d'avancer la table ? Ceux qui m'ont aidé tout à l'heure, si vous arrivez à m'avancer la table, je vous serai éternellement reconnaissant. Josué 2, versets 1 à 21. Josué 2, versets 1 à 21. 21 versets. Par pitié, écoutez. C'est écrit finalement sur l'écran. Mais prêtez attention. Moi, je vais juste nous aider à réfléchir dessus. Mais ce qui importe, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Ready? Merci pour les deux yes. Les autres sont déjà endormis. Josué 2, versets 1 à 21. Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant « Allez, examinez le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée. Elle se nommait Rahab et ils y couchèrent. Alors on dit au roi de Jéricho « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les deux hommes et les cacha et elle dit « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même grâce, la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec grâce, avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Écoutez bien. « À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi rouge, rouge vif. » Ah, je me suis perdu. 18, pardon. « À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur ta tête et nous en serons innocents. Mais si l'on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon cramoisi à sa fenêtre. J'aime ce texte. J'aime ce texte, il est incroyable. Il est incroyable parce qu'on parle d'une fille qui s'appelle Rahab. Rahab, une fille qu'on nomme la prostituée. Mais quand je pense à Rahab, la petite fille, j'imagine bien qu'elle ne rêvait pas de devenir une prostituée, n'est-ce pas ? Rahab, la petite fille, qui a grandi dans Jéricho. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'est être heureuse. Elle voulait le bonheur. Et alors, elle a tout fait pour être heureuse. Alors, finalement, à l'adolescence, elle a cherché l'amour auprès des hommes. Elle a cherché à être aimée. Et on a profité d'elle. On l'a humiliée. Alors elle s'est enfoncée dans le monde des ténèbres. Mais alors elle a essayé d'être heureuse, essayé de s'en sortir, essayé de gagner un peu d'argent pour vivre, pour être heureuse. Parce que la seule chose qui l'a préoccupée, c'était d'être heureuse. Malheureusement, elle s'est retrouvée prisonnière. Prisonnière du sexe. Où elle cherchait du plaisir. Elle cherchait de l'affection. Mais où elle cherchait à vivre. Elle s'est retrouvée prisonnière. Prisonnière. Elle ne rêvait pas de ça. Mais j'imagine que tu n'as jamais rêvé de devenir alcoolique. Tu n'as jamais rêvé de devenir violente. Tu n'as jamais rêvé de voler, de mentir. J'imagine bien que depuis tout petit, tu rêves d'être heureuse. Tu rêves de vivre le vrai bonheur. Mais l'histoire montre que ça ne marche pas aussi bien que ça. Le nom Rahab veut dire violence. Rahab a subi des violences. Et malheureusement, quand on subit des violences, quand on subit des choses difficiles, alors le problème, c'est qu'on devient dur et on essaye de se défendre. Et elle a essayé de se défendre. Et elle s'est retrouvée prisonnière d'une prison dorée, d'une cage dorée, d'une cage où elle croyait être en sécurité. Jéricho, certainement la ville la plus sécurisée du monde. Des remparts énormes. Et finalement, à l'intérieur de cette ville, en apparence, tout va bien. En apparence, tout va bien. Il y a de l'argent. Money, money, money. Plein d'argent. Plein d'argent. Finalement, c'est le bonheur absolu. On y fait la fête. Et il y a des jolies filles, des beaux gosses. Ne me regardez pas. Arrêtez. Mais finalement, c'est la grosse fiesta où tout est permis. Et en apparence, tout est bien. Sauf que tout le monde est prisonnier. Tout le monde est prisonnier. Excusez-moi, Je vois tellement de gens dans les églises et en dehors des églises qui sont prisonniers d'une cage dorée. Prisonniers de leur belle maison, de leur crédit, prisonniers de la cigarette, prisonniers de la pornographie. Vous savez ce qui me fait mal ? C'est d'avoir l'impression qu'il y a autant de gens dans les églises qui sont addicts à la pornographie qu'en dehors. Mais tout le monde s'en fout. On n'en parle jamais. J'ai grandi dans l'église. Je n'ai jamais entendu personne me parler de la pornographie. Mais mes potes du foot m'en ont parlé. J'avais 14 ans. Et j'ai sombré dans la pornographie, dans la masturbation. Et j'avais l'impression d'être le seul au monde. D'être le seul au monde. Le seul foutu gars prisonnier de cette foutue cage dorée. Et l'impression que dans l'église, tout le monde plane au septième ciel. T'as l'impression que, oui, c'est extraordinaire. T'as l'impression que les pasteurs, tous qui vivent, waouh ! Jamais entendre personne parler des tentations. Moi, j'étais prisonnier. Parce qu'au jour où, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, j'ai osé en parler à mon meilleur pote et de découvrir qu'il avait le même problème que moi. Mais au moins, on a pu commencer à s'encourager, à prier l'un pour l'autre. J'ai essayé par moi-même de sortir des milliards de fois. J'ai essayé de m'en sortir. Mais j'étais prisonnier. Et j'imagine bien que Rahab a essayé de s'en sortir. Elle a essayé de sortir de tout ça. Mais elle était prisonnière. Et j'étais prisonnier. Pendant des années, alors que je commençais à prêcher l'Évangile, j'avais un problème. Un problème caché, un problème dont j'avais honte. Mais par la grâce de Dieu, un jour j'ai capitulé. Un jour j'ai réalisé que je ne pouvais pas sortir de ma prison. Et j'ai dit, Jésus, je ne peux pas te promettre de ne plus regarder ça. Je ne peux pas, j'y arriverai pas. Si toi, tu ne le fais pas, j'y arriverai pas. Que tu me crois ou pas. À ce moment-là, Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Je ne peux pas l'expliquer. Après des milliards, peut-être pas des milliards, c'est un peu beaucoup, après des milliers de fois, à vouloir m'en sortir, à ce moment-là, par la grâce de Dieu, il m'a libéré de ça. Et aujourd'hui, partout où je vais dans le monde, je n'ai pas peur de parler de ça. Je n'ai pas peur de parler de mes mauvaises pensées ou toutes les fois j'ai des pensées impures, même quand je suis à l'église, même quand je lève les mains. Tu en as aussi. C'est pour ça que je n'ai pas peur d'en parler. Parce que si tu me juges, la Bible dit que tu seras jugé à la mesure dont tu me juges. Et à ta place, je ne m'aventurerai pas dans ces choses-là. Parce qu'on a tous des pensées impures. Tous, il n'y a pas un pasteur, il n'y a personne qui est au-dessus du lot. On est tous bizarres. Non, parce qu'il y en a qui ne me croient pas encore. Ok. S'il y a des gens qui n'ont jamais de pensée impure, levez la main. Je vous laisse ma place. Regardez, il n'y en a pas un qui a levé la main. Mais on n'en parle jamais de ça, hein. De nos foutues mauvaises pensées. L'Église devrait être un endroit où on parle de ces choses-là. Excusez-moi, on parlait d'authenticité dans l'introduction. L'Église devrait être un endroit où on est authentique, où on peut être nous-mêmes, où on peut parler de nos bizarreries, où on peut parler de nos addictions. Tellement de gens sont addicts de la télévision, du confort, du sport, du sexe, de l'alcool, de l'idolâtrie et jeux vidéo. Alors, ce soir, je vous parle de Rahab la prostituée, mais j'aurais pu vous parler de Matthieu le drogué, de Justine l'homosexuel. J'aurais pu vous parler de Pierre le menteur, d'Éric l'alcoolique, de John le porno-addict ou de Laura l'anorexique. Finalement, Rab, c'est toi et moi. On n'est pas meilleur qu'elle. Rab, par contre, va faire une rencontre. Une rencontre avec deux espions. Deux espions juifs. Et au départ, c'est comme si elle ne fait pas attention à qui ils sont. Ils viennent dormir chez elle. Alors, j'espère qu'elle avait un petit hôtel ou un gîte. Je ne veux pas savoir plus. Mais je m'imagine qu'elle a un petit gîte à côté de son autre travail. Mais quand elle entend le roi de Jéricho parler, elle va tout d'un coup se souvenir. Elle va se souvenir de toutes les histoires qu'elle avait entendues sur le Dieu d'Israël. Elle va se souvenir des histoires qu'elle avait entendues quand elle était petite. Écoutez bien verset 10. « Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. » Elle se souvient. Elle s'est souvenue des histoires de la Bible. Prends attention à ce que la Bible dit. On ne prend plus attention à ce que la Bible dit. On ne prend plus attention à ces histoires. On ne croit plus que c'est vrai. De plus en plus, on ne prie plus pour les malades. On ne croit plus dans les miracles. Alors on prêche que Dieu est souverain. Mais excusez-moi, si on ne prêche que seulement sur le fait que Dieu est souverain, il faut en arracher des pages de la Bible, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on prend encore au sérieux ce que la Bible dit ? Excusez-moi, Rab, elle a pris au sérieux. Elle a pris ça au sérieux, elle s'est dit, wow. Si vous êtes dans le camp du Dieu qui a séparé la mer Rouge, alors ? Ah, c'est un truc de fou ! Alors les gars, il faut qu'on discute là, wow ! Vous êtes arrivés au bon endroit. Tout d'un coup, ça m'intéresse. Vous croyez dans ce Dieu-là ? No way. Ça, c'est bon. Il a séparé la mer Rouge. Ouh là 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 là. Et tout d'un coup, tu sais ce qu'elle va faire. Elle va risquer sa vie. Elle va mentir au roi en disant qu'ils sont partis pour les garder avec elle. Elle va prendre un risque. Excusez-moi, elle trahit son pays. Mais elle se dit, c'est plus risqué. Finalement, de dénoncer ces espions-là avec ce Dieu-là, que de devenir quelqu'un qui trahit son pays. Vaut mieux que je fasse confiance dans ces deux gars-là. Excusez-moi, ces deux espions au milieu d'une armée énorme. Ça paraît fou de faire confiance à seulement deux gars. Mais excusez-moi, ça paraît fou que ce soir, vous êtes là plutôt que d'être en train de faire la fête. Excusez-moi, c'est complètement débile de venir dans un endroit pour écouter un foutu barbu qui vient de Mulhouse. Je veux dire, il y a des fêtes, il y a des bons restos. Enfin, j'espère que vous avez des bons restos. Mais c'est insensé. Mais pourtant, ce qui n'est pas à la mode, et peut-être ce qui peut réellement changer ta vie. Ce qui n'est pas stylé, ce qui n'est pas funky, et peut-être réellement ce qui peut te faire découvrir le vrai bonheur. C'est marrant parce qu'elle a conscience du danger de la cage. Elle a conscience que finalement, en étant prisonnière de cette cage-là, elle va mourir. Elle a conscience de ça. Et malheureusement, nous avons de moins en moins conscience que le péché tue, que le salaire du péché, c'est la mort. La société n'a pas conscience de ça. Wouhou ! Mais le péché est mortel. J'ai vu malheureusement des dizaines de jeunes gens mourir parce qu'ils étaient bourrés, parce qu'ils étaient sous la drogue. J'ai vu tellement de jeunes filles tomber enceintes alors qu'elles n'avaient que 16 ans. Vous imaginez pas, j'ai vu passer des milliers de jeunes. Je les ai vus grandir. J'ai vu des jeunes gens me dire, « Thibaut, ne t'inquiète pas, je gère. » J'en ai vu tellement. Malheureusement, j'en ai vu tellement. Mais la conscience, elle a pris conscience qu'elle est en danger. Et c'est pour ça qu'elle va dire, « Mais faites-moi grâce. » Moi, je vous ai invité, je vous ai caché, mais faites-moi grâce. Ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. Ne me laissez pas tomber. Ne me laissez pas dans ce monde-là. Par pitié, ne me laissez pas là. Par pitié. Par pitié, ne me laissez pas là. Par pitié. J'aimerais donner la parole à Eliel, c'est le frère de Jemuel, simplement pour qu'il puisse vous parler de ce que lui a vécu.
Bon, c'était aussi un loulou, hein. Ils se faisaient une compétition les deux.
Ouais, c'est vrai, il n'a pas tort. Alors en fait, moi, comme dit, je suis revenu à Dieu il y a quelques mois, donc depuis septembre dernier, je suis revenu à Dieu vraiment. Et en fait, j'avais un problème que j'avais choisi, en fait. J'étais complètement accro, en fait, à la nicotine, donc à la clope. Et en fait, je clopais, donc après les rencontres de jeunes, où je disais « Seigneur, bientôt c'est fini, Seigneur, c'est bientôt fini ». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait que je le dise, il fallait que je le proclame sur ma vie, mais il fallait aussi que je fasse les choses pour que ce soit bientôt fini. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le 3 janvier exactement, le 2 même, 2 janvier, j'ai acheté donc, tout ce qui est Nicorette, pour ceux qui connaissent peut-être Nicorette, les patchs et tout ça. Et j'ai décidé, j'ai dit, Dieu, je te mets dans mon combat. Donc j'ai acheté, j'ai mis dans mon combat, j'ai prié. Et en fait, que vous le croyez ou pas, Dieu ne m'a pas permis d'utiliser ni Nicorette, ni quoi que ce soit, en fait. J'ai arrêté comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pris la décision. J'ai invité Dieu dans mon combat, j'ai agi et Dieu a combattu pour moi. À l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas un ancien fumeur, mais Dieu a décrété que je suis non-fumeur.
Amen. Il a crié à Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Comme Rahab s'est tourné vers Dieu. Et les espions vont lui demander une chose. Ils vont demander une seule chose. Ils vont dire, accroche à ta fenêtre. Accroche à ta fenêtre. Finalement, ce tissu rouge, alors je n'ai pas trouvé plus rouge. Hein. Rose, c'est pour faire à la mode, funky, mais normalement, il était bien rouge. Et ils lui ont dit, si tu accroches ça, alors tu seras sauvé. Si seulement tu pouvais réaliser qu'à la croix, Jésus, quand son sang a coulé, il a coulé pour que tu sois libéré. Si Jésus est mort à la croix il y a 2000 ans, c'est pas juste une histoire jolie où on dit « Wow, Jésus t'aime et il est carrément mort pour toi ». Non, c'est plus que ça. Oui, il t'aime, oui, il est mort pour toi, mais son sang est suffisant pour te permettre d'être libéré. C'est, à quelque part, c'était dangereux pour elle de mettre ça. Parce que tout d'un coup, je veux dire, on aurait pu la repérer, nanana, lui demander, mais pourquoi tu fais ça? Elle prenait un risque. Et à la fin, dans quelques instants, je vais vous proposer de prendre un risque. Parce que certains d'entre vous, vous avez des problèmes. Et Jésus aimerait vous en sortir. Le problème, c'est que la Bible dit que c'est celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche qui sera sauvé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit se passer à l'intérieur.
Ça, chacun peut le faire.
Par contre, la Bible dit qu'il faut confesser. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est visible. Et je sais qu'on est dans une société où on est de plus en plus timide, où on a honte et le regard des autres est compliqué. Les amis, si moi j'ai osé parler de mes foutues bizarreries, n'aie pas peur de t'approcher de Jésus et de reconnaître tes faiblesses, de reconnaître ton sale caractère. Si tu veux entendre mes autres faiblesses, viens demain matin, viens demain après-midi. J'en ai en stock. J'en ai en stock, je te promets. Partout où je voyage dans le monde, c'est la même chose. Je dis publiquement mes fautes. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de casser ce foutu mensonge qui te fait croire que tu es seul J'ai envie que tu réalises que d'en parler, c'est ce qui va t'aider et te libérer. D'oser en parler, d'oser reconnaître, je suis pécheur, j'y arriverai pas, je suis dans cette foutue cage, j'ai besoin de m'en sortir. Je veux découvrir le vrai bonheur. Et je sais, et je vais pas beaucoup parler du vrai bonheur, parce que je sais que tu le vois. Partout où je vais dans le monde, on m'arrête, on me dit, pourquoi t'es tellement heureux? Pourquoi t'es tellement joyeux? Pourquoi? J'en sais rien. Je prends pas de drogue. Je bois pas d'alcool, j'ai jamais été en boîte de nuit, j'ai jamais fumé. Mais j'ai un sauveur, j'ai un ami. J'ai un ami, il s'appelle Jésus. Il a changé ma vie. Vous allez entendre la suite de mon témoignage. J'aimerais tellement que vous puissiez goûter à ça. Mais pour cela, il va falloir t'attacher. T'attacher. Si tu peux commencer juste à jouer au piano, je veux bien. C'est marrant parce que les espions vont partir, elle va attacher ça. Et les espions vont lui donner une consigne. Ils vont lui dire, par contre, vous devez rester dans ta maison. Faut pas sortir de la maison. Sinon, on ne peut pas vous promettre. Et donc les espions partent. Et ça dure un jour, deux jours, trois jours. Et tout d'un coup, il y a le stress. Je dirais, si ça ne marchait pas, putain, il m'avait promis, si ça ne marchait pas, s'il m'avait oublié, et si finalement, ce n'était pas ça la solution. Je sais que beaucoup d'entre vous avez fait une prière et vous avez l'impression que Jésus ne vous avait pas entendu. Je le sais. Vous êtes comme Rahab. Rahab ne comprend pas. Mais le pire, c'est quand elle voit l'armée d'Israël arriver. Vous inquiétez pas, ils ne sont pas en train de déserter. Ils vont préparer la suite. Vous inquiétez pas. D'accord? Ne dites pas, oh les fuyards, vraiment. Non, tout va bien. Restez avec moi. Restez avec moi. Je termine, vraiment. Le pire dans cette histoire, et je sais que vous connaissez l'histoire de Jéricho, c'est que tout d'un coup, l'armée va venir. Et alors là, il y a de nouveau de l'espoir. Il y a, oh, ils arrivent. Alors elle dit à toute sa famille, vous inquiétez pas, ils sont là. Et tout d'un coup, elle les voit jouer de la trompette autour de la muraille. Mais c'est débile. Vouloir prendre une ville en jouant de la trompette et en faisant une randonnée. Une randonnée horrible. Premier jour, sa famille a dû la prendre pour une dingue. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, j'ai envie de te dire une chose. Ne sors pas de la pièce. Même si tu as l'impression que les choses ne bougent pas dans ton célibat, même si tu as l'impression que tu n'y arrives pas, même si tu as l'impression qu'il ne se passe rien, même si tu as l'impression que tu sens rien, par pitié, ne quitte pas Jésus, par pitié. Peu importe ce qu'on t'a fait subir, par pitié, ne quitte pas. Il va y avoir six tours. Et rien ne se passe. Six jours, six tours, rien ne se passe. Le dernier jour, les gars sont dingues parce que le septième jour, ils vont faire sept fois le tour. Ça paraît fou. C'est insupportable. Je pense qu'on ne peut pas mesurer, nous, ce qu'elle était en train de vivre. On ne peut pas. Le stress, la panique, l'incompréhension. Mais tout d'un coup, c'est toute la muraille qui va s'effondrer. Toute la muraille va s'effondrer. Sauf sa maison. Parce qu'elle aurait pu avoir peur quand elle sent la muraille s'effondrer. Elle aurait pu avoir peur en se disant, mais moi je ne vais pas tenir. T'as pas à avoir peur du réchauffement climatique. Si tu t'es accroché à Jésus, tout peut s'effondrer. Tu peux être tranquille. Parce qu'il a promis, il va l'accomplir. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Et la Bible dit que si tu crois et que tu confesses de ta bouche, non seulement il te pardonne, il te purifie, mais il inscrit ton nom dans le livre de vie. Ça veut dire que tu as l'assurance que même si tu meurs, tu vas au ciel. Tu n'as plus à avoir peur de la mort. Je sais qu'il y a des gens, vous avez peur de la mort. Je sais, je vois tellement de gens. Ce soir, Jésus est là. Et dans sa grâce, vous vous rendez compte, il a juste sauvé Rab. La seule personne qui a été sauvée, c'est une prostituée. T'as l'impression que t'es pire. Mais il veut te sauver ce soir. Il veut te sauver. Comme je l'ai dit, je vais faire un appel. Il est important pour vous d'entendre une dernière chose. Et je vous promets, après, on va fermer nos yeux, on va prier. Une dernière chose. Ce que vous ne savez pas de Rahab, c'est qu'après, elle va se marier. Elle va se marier. Elle va avoir un enfant. Et cet enfant va avoir un enfant. Et de cette histoire, écoute-moi bien, de cette histoire-là, va naître Jésus-Christ. Parce qu'elle a su faire confiance à Dieu. Tout d'un coup, non seulement elle va découvrir une vie stable, où elle est heureuse, mais tout d'un coup, sa vie va devenir une bénédiction pour les autres. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru d'une femme prostituée une telle destinée ? Peut-être tu te sens vraiment ridicule, tu te sens nul. Si Jésus vient dans ta vie, s'il te pardonne, alors ta vie va devenir extraordinaire. Va devenir extraordinaire. Et au travers de toi, il va y avoir un impact dans le monde entier. Rab, tu lui aurais dit ça, elle ne t'aurait pas cru. C'est juste un enfant, c'est bon, un enfant. Je veux dire, j'ai rien fait de mal. Non. Parce que tu as su éduquer cet enfant. Peut-être des mamans qui ont besoin d'entendre ça. Parce que tu as su éduquer cet enfant-là. C'est le monde entier qui va être bouleversé. Tu n'imagines pas la destinée que Dieu a préparée pour toi. Fermons nos yeux, si vous le voulez bien. Fermons nos yeux. Peut-être si l'équipe peut venir. L'équipe peut venir faire le chant du début. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir nos yeux fermés. Avec beaucoup de respect les uns pour les autres. Nous allons reprendre le chant du départ. J'ai un peu bouleversé le programme, mais... J'aimerais que tu puisses, alors que ce chant va être chanté, j'aimerais que tu puisses répondre à cet appel de Jésus. De Jésus qui veut te sauver, te libérer. Peut-être que tu es là et tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Mais Jésus te connaît. Il veut changer ta vie. Soit il frappe à la porte de ton cœur. Il t'aime tellement. Il frappe à la porte de ton cœur. Il aimerait venir habiter dans ta vie. Mais il aimerait changer ta vie. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Alors que ce chant va être chanté, j'aimerais nous inviter à nous lever, tous ensemble, et à garder nos yeux fermés, vraiment par respect. J'aimerais inviter tous ceux qui veulent voir leur vie changer, s'approcher. J'aimerais vous inviter avec beaucoup de courage à venir me rejoindre, rejoindre le clan des pêcheurs, venez me rejoindre. Je ne suis pas meilleur que vous. Mais j'aimerais prier pour vous avec quelques amis pasteurs qui sont dans cette salle. On aimerait prier pour vous, prendre du temps un peu avec vous. Que pendant que mes amis chantent, vous puissiez avoir le courage de venir. Et si mes amis pasteurs peuvent venir me rejoindre. Cette cage dorée. Dieu est là. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Mais ce que Rahab a dû faire était difficile. Terriblement difficile. Mais elle voulait que sa vie change. Elle ne voulait plus vivre dans son péché. Merci pour chaque personne qui s'approche avec beaucoup d'humilité, beaucoup de courage, énormément de courage. Je suis tellement fier de ces bien-aimés, tellement fier d'eux. Et je sais qu'au ciel, ta Bible dit qu'il y a de la fête pour chaque pécheur qui se repent. Pour chaque pécheur qui se repent, c'est la fête. Et mon cœur est tellement dans la joie de voir mes bien-aimés s'approcher. Mon cœur est tellement dans la joie et je me réjouis tellement. Je prie, Père, pour tous ceux qui n'ont pas osé ou c'est trop dur. Je prie de les chercher là où ils sont et de leur faire du bien, de leur parler. Qu'ils puissent peut-être à la fin parler avec quelqu'un. Qu'ils puissent oser confesser leurs péchés. Je prie, Père, que chaque personne dans ce lieu ose reconnaître ses fautes, ose confesser ses péchés. Je te prie, Père. Je te prie et je te supplie, Seigneur. Tu puisses agir dans les cœurs et dans les vies de chaque personne dans ce lieu. Tellement de prisonniers, tellement de gens qui souffrent. Je prie vraiment de visiter ce lieu. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que toute addiction cachée soit brisée au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, pour chaque personne. Toi, tu connais ses luttes et ses combats pour chaque personne. Je prie, Père. Je prie, Seigneur Jésus. Je vais libérer, guérir. Tu es là. Peut-être une dernière fois, reprenons ce chant. Tu es au milieu de nous. Tu n'imagines pas ce que Jésus peut faire. Attends-toi à lui. Crie à lui, commence à lui parler, peut-être à ta place. On a tous nos bizarreries. Attends-toi à lui. Peut-être que tu es chrétien depuis tant d'années. Tu souffres d'une addiction. Crois seulement. Crois. Crois. Seigneur, merci. Merci d'être là au milieu de nous. Merci d'être présent avec nous. Merci d'être présent dans ce lieu. Tu es présent. Et c'est toi qui opères des miracles. C'est toi qui opères des miracles dans les cœurs, dans les vies. Qui brise le pouvoir de l'alcool, qui brise réellement toute addiction à la pornographie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un, tu as des pensées de suicide, des pensées de mort. Vraiment, tu ne t'es pas approché. Et tu vas terriblement mal. Tu t'es fourvoyé dans le péché, tu n'as plus aucun goût de vivre. Tu as été blessé. Tu t'es reconnu dans la vie de Rahab où tu as subi des violences. Tu as des pensées de suicide et Dieu te parle et il te dit « Mais je t'aime tellement. De la même manière que j'ai secouru Rahab, je veux te secourir ce soir. Si seulement tu veux me tendre la main, il te suffit de croire en moi. Il te suffit de croire en moi. » Faire découvrir la paix, la joie que tu n'as jamais connue jusque-là. Et une maman, tu l'as découragée, fatiguée. Jésus juste est là et il aimerait juste que tu puisses te reposer sur lui. Tu as essayé de gérer ta vie, de gérer ta famille et tu n'en peux plus. Et Jésus te dit décharge-toi de tous tes soucis. Car je veux prendre soin de toi. Je veux prendre soin de toi. À quelqu'un, tu as des difficultés avec l'homosexualité. Mais tu n'en parles à personne. Mais ces pensées redeviennent de plus en plus fortes. Et tu as honte et tu te caches. Et Jésus te dit, viens comme tu es. Viens avec ta faiblesse. Et laisse-moi te délivrer, laisse-moi réellement rétablir les choses. Tu as une fragilité, comme d'autres ont d'autres fragilités. Mais ce n'est pas parce que tu as cette fragilité que cette fragilité, c'est ton identité. C'est juste une tentation. Laisse-moi t'aider. Et pour cela, je t'appelle à confesser. Trouver quelqu'un de confiant. Je t'aime tellement. J'ai des rêves pour toi. J'ai une destinée pour toi. Vraiment, je suis désolé. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ce genre de choses. C'est ce que la parole de Dieu appelle des paroles de connaissance. Vraiment, je veux choquer personne. Je suis vraiment là. Beaucoup de respect de chacun. Je suis pas là pour vouloir insister, mais Dieu est là. Dieu est là. es là. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu as parlé. Merci pour ta parole et merci pour ce que tu as opéré dans les cœurs et dans les vies. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup. J'aimerais juste avoir toute votre attention. Je termine. Ils ont besoin de 5 minutes pour se préparer. Moi, je veux juste terminer. Des conseils très pratiques. Très pratiques. Si tu peux préparer la vidéo numéro 3. Juste des conseils très pratiques. Première chose, moi, sur mon téléphone, j'ai un groupe WhatsApp avec 12 personnes à qui je dis tout. Je dis tout. J'ai 12 gars qui prient pour moi. En ce moment, ils prient pour nous. Vous pouvez vous asseoir. C'est une très bonne idée. Pour l'instant, on finit de prier, pas de problème. Excusez-moi, j'ai 12 gars à qui je dis tout. Par pitié, trouve-toi au moins une personne à qui tu dis tout. Je t'encourage vraiment. Qui que tu sois pasteur, que tu... peu importe, trouve une personne à qui tu dis tout. Quand tu as des tentations, moi j'ai une chérie en ce moment, j'ai découvert la puissance des hormones. Oh purée. Oh purée. J'aurais jamais cru que c'était à ce point-là. Bref. Mais je dis tout. Quand c'est chaud, ils le savent. Je dis tout. Par pitié, trouve quelqu'un à qui tu dis tout. Deuxième conseil, si tu peux lancer la vidéo. Mini-illustration. Je ne veux pas en rajouter, mais cette illustration me semble importante. Ils ont fait un film sur le dernier règle blanc. Qui vole, qui... Finalement, t'as l'impression qu'il n'a aucun problème, cet oiseau. Qu'il va dans des endroits qu'on n'imagine même pas. C'est exactement ce que Dieu veut faire pour toi. Cet aigle est libre. Il peut se nourrir. Et quand les ennemis viennent, il peut s'envoler. Il a la capacité de fuir la tentation, de fuir l'ennemi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que cet aigle a grandi derrière les barreaux. Il était en captivité et il ne savait pas voler. Alors il y a un homme qui est rentré dans sa cage pour lui apprendre à voler et lui redonner sa liberté. Cet homme a décidé de lui apprendre à voler. Et il a pris du temps pour lui apprendre à vivre finalement ce pourquoi il a été créé. Il y a une relation toute spéciale entre l'homme et l'aigle qui s'est tissée. Finalement, l'aigle a appris à lui faire confiance. Et l'homme a réussi à le challenger, lui permettre de grandir et de progresser. D'aventure extraordinaire. Peut-être si tu peux mettre pause, je veux bien. C'est ma dernière pensée. Il est temps d'apprendre, de retourner à l'école. Partout où je voyage, et les jeunes pourraient le dire, j'ai toujours mon sac à dos. Partout où je vais, toujours mon sac à dos. Parce que je suis encore à l'école. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre à voler. Bon, pas au sens, dans le bon sens du terme. Hein. J'ai pas prévu de braquer de banque. Je suis en train d'apprendre à être saint, comme Jésus est saint. Je suis en train d'apprendre à gérer mon caractère. Je vais en parler demain. Mon foutu caractère. Ouh. La douceur. Ouh. Mais je suis en train d'apprendre. Je suis pas encore parfait. Il m'a libéré. Mais il y a des choses que je dois encore apprendre. Souvent, on est libéré. Mais c'est comme si la cage était encore à l'intérieur de nous. il va falloir désapprendre certaines choses. Il y a des gens, vous avez des mensonges dans vos têtes. Beaucoup de jeunes gens, vous trouvez moche, vous trouvez nul. Et ça, parce qu'on n'a pas arrêté de vous le dire. Jésus, ce soir, vous a sorti de là. Mais maintenant, vous allez devoir apprendre à dire à vos pensées, je refuse. La Bible dit que je suis une merveilleuse créature. Et tu as le droit de finir en disant, Parce que maintenant, tu as une autorité. Tu as une autorité. Jésus t'a libéré. Tu es enfant de Dieu. La Bible dit que parce que tu as cru en lui, tu deviens enfant de Dieu. Mais ça s'apprend. Bienvenue à l'école. Que Dieu vous bénisse.